Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Aujourd'hui, c'est une spéciale André Malraux avec trois auteurs qui parlent très très bien de ce grand homme de la 5e République et même de la 4e. Bon, on va le voir avec Guillaume Villemot qui est parmi nous. En premier. Donc bonjour Guillaume Villemot. Vous avez écrit, vous, André Malraux, l'homme qui osait ses rêves. Et c'est aux éditions Baker Street, comme les deux autres ouvrages d'Alain Malraux et de Philippe Monnier. Voilà. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Alors, moi, je suis donc Guillaume Villemot, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et je suis, je dirige une agence de communication et depuis plusieurs années, je m'occupe d'un dispositif de l'État qui s'appelle le service militaire adapté, qui a d'ailleurs une antenne pas très très loin de chez vous, parce qu'il y a une antenne à Périgueux, et je suis délégué général de la fondation du SMA qui n'intervient donc principalement que dans les Outre-mer. Et il m'arrive d'écrire. Et je me suis, il y a quelques années, absolument passionné, après avoir écrit un livre sur De Gaulle, je me suis absolument passionné pour Malraux, qui est un personnage que je trouve absolument extraordinaire et d'une grande actualité et tellement vivant qu'on a tendance un peu à l'oublier aujourd'hui.
Alors, moi, je vais rebondir sur ce que vous dites. Votre livre sur les trois raconte quand même le André Malraux, le trublion du début du XXe siècle, l'homme d'aventure, le Tintin, parce qu'à la rigueur, on se demanderait si Hergé n'a pas pris Malraux pour faire Tintin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Si, je suis complètement d'accord avec vous aussi.
André Malraux, on pourrait même faire une série d'aventures comme on l'a fait pour d'autres aventuriers, car c'était vraiment, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale comprise, ça a été quand même vraiment un aventurier. Vous êtes d'accord avec moi, je suppose?
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous avez tellement raison qu'il a même été un héros d'une bande dessinée dans les années 60 aux États-Unis. Mais c'est vrai que si vous prenez l'exemple de Tintin que vous venez de citer fort justement, quand vous prenez les albums de Tintin, vous regardez les titres de tous les albums, et en dehors de « On a marché sur la Lune », quasiment chacun de ces albums peut se transposer dans une des aventures qu'a pu vivre André Malraux durant sa vie.
Et d'ailleurs, moi, on parle de Tintin, mais moi, j'aurais pu mis avec Henri de Montfred aussi.
Oui, bien sûr, il y a cette grande similitude-là. Alors, la différence avec Monfred, c'est que Malraux, comme Monfred, a fait un peu de contrebande, ou en tout cas essayé d'en faire. Ils n'ont pas fait le même type de contrebande, mais ils ont quand même fait de la contrebande tous les deux. Si, vous avez raison. Henri de Monfred, qu'on a aussi eu tendance à beaucoup oublier ces dernières années, et à ce point commun, ce sont des gens pour qui, finalement, le monde paraît un peu petit et qui sont des grands curieux. Et moi, c'est ce que j'aime chez Malraux, c'est cette éternelle curiosité qu'il a et qu'il aura jusqu'à la fin de ses jours.
Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé? Bon, mis à part que, effectivement, si vous avez écrit un livre sur De Gaulle, ça a un peu cool, un peu de source de parler de Malraux. Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est cet aspect aventure, cet aspect trublion de la 4e République. Donc, Guillaume, vous avez été rejoint par Alain Malraux.
Absolument.
Bonjour Alain Malraux. Alors, comme j'ai demandé à Guillaume Villemot, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs?
Moi, oui, je peux me présenter, mais ça dépend du temps que vous me accordez pour me présenter, parce que je peux être très prolixe.
Allez-y, je vous en prie.
Mais écoutez, j'ai 79 ans, trois grands-enfants, quatre petits-enfants. Et puis, j'ai eu une première pièce il y a une trentaine d'années, largement diffusée à la télévision, qui s'appelle « Là où vous êtes » par TV5, TF1, etc. J'ai publié « Les marronniers de Boulogne », un témoignage sur mon enfance et mon adolescence auprès d'André Malraux, l'oncle qui m'a élevé complètement, avec qui j'ai vécu de 1 à 24 ans. Et puis, j'en ai écrit un autre, qui est un libre parcours biographique aux éditions de l'Archipel, collection d'écriture, qui s'appelle « L'homme des ruptures ». Et enfin, maintenant, un recueil de portraits grâce à notre éditeur, éditrice commune, Cynthia Libaud, qui a créé Baker Street, Alors, cette fois-ci, j'ai ajouté 4 portraits inédits à ce recueil de 20 portraits. Voilà. Est-ce
D'accord.
que je me suis présenté suffisamment?
Vous inquiétez pas, ça ira très bien. De manière, on va discuter tous les trois autour d'un bon café. Alors, justement, je parlais avec Guillaume Villemot que vous, André Malraux, on pourrait le considérer comme Henri de Montfred ou Tintin. D'ailleurs, à se demander si Hergé n'avait pas pris les traits de Malraux pour créer Tintin. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que votre oncle, votre père adoptif,
L'homme que j'ai dû appeler papa, vous voyez.
oui, et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un homme aux mille vies d'aventure.
Oui, absolument. Écoutez, j'ai quand même réfléchi à cette question pendant de longues années, n'étant plus jeune. Et si on me disait, comment le définiriez-vous en 3 mots? Je répondrais, génial, généreux, délirant.
Ah oui, tout à fait.
Et ça, c'est pas très long.
Non, c'est pas très long, c'est vrai. En ce qui vous concerne, et cette question va avec Guillaume Villemot, vous avez écrit, donc, il y a 3 livres qui sont sortis donc, chez Baker Street. Donc, il y a le vôtre, dont Au passage des grelots dans le cercle des Malraux, et Guillaume Villemot avec L'homme qui osait ses rêves. Et donc votre camarade Philippe Langenu qu'on aura plus tard, avec Les derniers jours d'André Malraux. Ces 3 livres s'imbriquent vraiment parfaitement. C'était un choix de les sortir chez le même éditeur avec, comment dire, à la même date, on va dire.
Je ne sais pas s'il faut dire que c'était un choix ou un enchaînement de choses, mais nous avons été très contents de trouver en Cité Alibo, américaine de Paris, biculturelle, qui a créé ces éditions, quelqu'un qui était prêt à publier 2 livres sur André Malraux et avec le sous-titre du précédent coéditeur, peu importe, dans le cercle des Malraux, c'est un rajout, ce n'est pas moi qui voulais ça. Je vous explique quand même le titre, Au passage des grelots, ça veut dire qu'au moment où vous voyez passer l'attelage, vous les avez déjà entendus avant, vous les entendrez encore après, mais le passage, c'est le présent de ces gens que j'ai captés. Voilà.
D'accord.
Et pour compléter ce que dit Alain, le choix des 3 livres cette année, c'est que cette année, on fête les 90 ans du Goncourt obtenu par Malraux.
J'allais dire.
Et c'était aussi une façon de rendre hommage à ce moment-là. Parce que c'est quand même un moment qui, même si Malraux, au moment où il obtient son concours, est déjà reconnu par ses pairs littéraires, mais c'est vraiment le moment où il va définitivement franchir le pas et être reconnu par l'intégralité du monde littéraire de l'époque et de une forme d'intelligentsia parisienne comme étant un écrivain majeur du XXe siècle.
D'accord. Et donc, quand on parle du Goncourt, là, parce que vous me tendez la perche, donc c'est pour les 90 ans de la condition humaine et donc de l'obtention du Goncourt, mais aussi on parlait d'aventure précédemment, et 1923 aussi, c'est l'affaire qui s'est passée avec l'histoire du temple de Bonté Srei. Donc, si vous voulez, là, c'est le centenaire, par contre.
Absolument,
Et
absolument.
c'était une de mes questions à vous, Guillaume, c'est que ce centenaire, à la rigueur, il passe un peu inaperçu, alors quand même, c'est un moment très fort dans la carrière de Marlowe, dans la carrière d'aventurier de Marlowe, parce qu'il va être condamné.
Oui, parce qu'il faut expliquer un peu ce qui se passe. Malraux se marie avec Clara,
Clara, pardon.
qui a pas mal d'argent. André n'est pas forcément pas une vision d'un travail ou d'être salarié quelque part. Donc, il va investir sa fortune dans des mines. Alors, il ne pourra pas choisir des mines dans le nord de la France, il choisit plutôt des mines mexicaines, mais ça va mieux avec le personnage, son côté un peu aventurier, y compris dans les investissements. Et ces mines font faillite. Donc, il se retrouve du jour au lendemain sans argent. Et Clara lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et il la regarde, il dit, je ne pense quand même pas que j'allais me mettre à travailler, je vais commencer à travailler. Et donc, il va continuer à creuser son parcours d'aventurier. Il a, parce qu'il a fréquenté, il continue à fréquenter des lieux comme les galeries, mais aussi le musée Guimet, etc. Et il sent bien que les statues de toute cette culture khmer, etc., sont des statues qui ont de la valeur. Et donc, il décide de monter une expédition. Alors, on est un petit peu à la fois comme Tintin, mais aussi comme Indiana Jones, finalement. Oui. Et il part... ils partent à trois, donc ils montent cette expédition et ils partent aller chercher des statues. Officiellement, il a un coup de tampon du musée Guimet qui explique qu'il y va pour aller faire une mission archéologique et une mission culturelle. Très vite, ils se font repérer parce qu'ils ont un côté presque un peu pied-nickelé, c'est-à-dire que peuvent passer éventuellement pour des aventuriers, ils peuvent passer, mais pour des archéologues très pointus, très précis, c'est un peu moins le cas. Et donc, ils partent dans le fin fond de la jungle, tous les trois. La présence d'une femme à l'époque est assez atypique dans ces endroits-là. Et à la scie et Goïn, ils vont découper des statues. Donc d'abord, ça fait un raffut pas possible. L'équipage qu'ils prennent avec eux pour les aider à porter est à peu près tout aussi pittoresque qu'eux. Et il y a un certain nombre d'indiscrétions qui font jour. Et très vite, surtout, c'est que les autorités françaises, puisqu'on est à l'époque dans un territoire français, les autorités françaises les surveillent de près. Quand ils reviennent avec un bateau qui est fortement chargé et avec des caisses qui sont très très lourdes, ils sont arrêtés. Le pillage de temples est absolument interdit, bien évidemment.
Bien sûr.
Ils sont condamnés. Et ils sont assez lourdement condamnés. Alors, Clara, non, parce qu'on considère que comme c'est la femme d'eux, elle y est pour rien. Donc, elle a aimé Malraux, lui, est condamné. Il est condamné à 3 ans de prison. Avec sursis, absolument. Et il est placé en résidence surveillée sur plan. Et donc, Clara va faire une chose qui est absolument extraordinaire et qui aujourd'hui paraît presque normale, c'est qu'elle va retourner à Paris. Et à Paris, elle va faire ce que beaucoup font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va mobiliser le monde intellectuel en disant « Mais vous vous rendez compte, André est condamné, il est coincé là-bas, il faut absolument le faire revenir. » Et donc, ils vont faire une pétition et elle va réussir là aussi. C'est un des tours de force, c'est ce que j'aime dans André. C'est pour ça que je dis c'est l'homme qui ose essayer, parce qu'il ose tout et il réussit à transformer ça en réalité. C'est qu'elle va réussir, elle, à aller convaincre des gens comme Breton, comme Gallimard, comme Gide, que finalement, André est victime d'une sorte d'énorme machination et que surtout, ce qu'il est parti faire là-bas, c'est un acte de valorisation culturelle. Et donc, il faut le faire libérer. Et ils vont, comme on le voit aujourd'hui avec des personnes qui sont arrêtées et privées de liberté dans des circonstances plus douloureuses que ce que Malraux a pu connaître, ils vont mobiliser cette pétition. Et cette pétition va faire en sorte que le procès va être révisé il va plus y avoir de condamnation, si ce n'est qu'il aura un an avec sursis, il pourra partir et quitter tout de suite le territoire. Mais c'est véritablement une des premières grandes aventures de Malraux hors de France, qui se finit pas forcément très bien, qui a aujourd'hui tendance à un peu mal lui coller à la peau, parce que souvent, quand on voit les présentations qui sont faites de Malraux, on dit oui, le pilleur de tombe, etc. Alors, on peut pas dire le contraire, mais c'est limiter les recherches de Malraux que de dire simplement le pilleur de tombe. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté aventurier, on peut faire de l'argent sur le sujet des tombes, mais il y a aussi, quand il est sur place, la prise de conscience de ce qu'est le colonialisme et ce qui va engendrer le fait qu'il va revenir et qu'il va lutter contre le colonialisme, parce que pour lui, cette situation n'est pas possible. Et en tout cas, il va vouloir dénoncer les injustices qui sont liées au colonialisme. Donc, il y a toujours ce côté bicéphale, finalement, chez Malraux, qui est à la fois ce côté... un peu aventurier rapide et on va faire de l'argent en allant piller des tombes, ce qui est donc encore une fois totalement inadmissible. Mais derrière ça, il y a le côté je m'engage, je découvre des choses et j'ai envie d'aller plus loin.
Et il a été plus loin et dans tous les domaines d'ailleurs. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, la question est aussi collégiale à Alain Malraux. André Malraux, s'est construit sur les aventures et pour moi, personnellement, malheureusement j'étais trop jeune quand il est décédé. C'est quand même quelqu'un qui s'est bâti et qui a forgé une image, une image et un peu sans concession, parce qu'il était vraiment, si on vous lit et si on voit les portraits de Malraux, c'était quelqu'un qui avait une volonté hors du commun, non ?
Ah, une volonté, comment dire, inébranlable. Il faut quand même que je nuance un mot de mon ami Guillaume, c'est qu'il n'est pas allé piller des tombes, il est allé barboter des ruines. Il n'y avait pas de mort là, il y avait des pierres dont je sais par un grand journaliste du passé à qui Jean Lacouture, plus tard biographe d'André Malraux, avait confié qu'un de ses oncles était magistrat à Saigon et qu'il y avait dans les salons des cadres supérieurs de Saigon et de Hanoï toutes sortes de très très belles têtes khmères ou de fragments de statues khmères et qu'ils avaient acheté pour 3 francs 6 sous ou ramassé au bord de la route parce que le temple de Vantea Israël était très très joli, merveilleux par ses ornementations, par ses sculptures, ses bas-reliefs et qu'il était en grès rose. Clara Malraux me l'a décrit, mais André Malraux ne m'en a jamais parlé sauf pour me dire que c'était petit, c'est pas un très grand temple et c'est si vous voulez dans la région de encore, mais c'est pas du tout encore. Alors dire qu'il est allé piller encore, c'est une inexactitude, même involontaire, si vous voulez.
Oui, tout à fait.
Les têtes qui se trouvaient dans les vitrines des salons des maîtresses de maison les plus en vue de Saigon et de Hanoï, elles étaient considérées comme une petite curiosité locale. Tout le monde se fichait de ce qu'il y avait autour de encore. À encore même, il y avait déjà l'école d'archéologie française, parce que c'est tellement monumental et magnifique, d'après tout ce que je sais, puisque je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais une de mes filles avait fait un safari photo qui m'a donné une envie bleue d'y aller.
Voilà. D'accord. Et donc, on va faire peut-être une petite page musicale, et je vais vous faire plaisir, Alain. J'ai trouvé votre Germaine Montero, la fille de Londres. Et donc, on passera aussi Jean Ferrat, C'est beau la vie, oui. Et donc Texas avec The Conversation. Donc, pourquoi ces choix, tous les deux, ces choix musicaux ?
Ce choix musical, parce que, au fond, j'ai découvert la chanson quand j'avais 10-11 ans, et je suis beaucoup plus féru de musique classique, étant le fils d'une pianiste remarquable, qui était Madeleine Malraux-Liou. Ce que je veux dire, c'est que c'était l'époque des 45 tours, vous voyez, avec un dôme en plastique, et j'avais un tour de disque, on appelait ça comme ça, il y a 70 ans, et Mac Orland était quelqu'un que Malraux estimait vraiment pour son talent, il estimait Marguerite de la Nuit, tant d'autres choses encore, et comme Germaine Montero était l'une des vedettes de Jean Vilar de la grande époque. Là, on parle des années 50. Moi, je dis, j'avais 10-11 ans. C'était les années où Gérard Philippe était la super vedette, la superstar du TNP, où Jeanne Moreau débutait avec, je dois dire, énormément de... Enfin, on l'a remarqué immédiatement, mais aussi d'autres comédiens remarquables que sont devenus Michel Bouquet, George Wilson, et combien d'autres, et des invités comme Maria Cazares. Alors... Ça, c'était le côté un peu frivole, mais Germaine Montero avait incarné, elle avait imposé vraiment le rôle de mère courage de Brecht, que le public français ne connaissait pas, sauf une frange de gens qui avaient fui l'Allemagne nazie, vous voyez, et elle chantait ça avec un entrain et un talent, un allant extraordinaire.
Alors pour ma part, Jean Ferrat, parce que je trouve que c'est probablement une des plus belles chansons et un des plus beaux hymnes qu'il soit, que C'est beau la vie, Jean Ferrat pour moi est un chanteur absolument extraordinaire et un auteur absolument extraordinaire, et The Conversation de Texas parce que j'ai créé il y a plusieurs années un festival qui s'appelle le Festival des Conversations et que cette musique me rappelle à chaque fois le festival, et finalement c'est ce qu'on fait en ce moment, une conversation, c'est-à-dire un moment où on construit quelque chose avec une forme de hasard de la conversation, sans trop, en sachant où on va mais en sachant pas forcément comment on va y atterrir et comment ça va se passer. Donc voilà.
Eh bien, on écoute ça tout de suite, on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission.
Un rat est venu dans ma chambre, il a rongé chez la souricière. Il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs. Il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de l'ombre. Un chinois a regardé Londres. Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine il finit, je lui ai souri. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Sur son maillot de laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes le nom d'une vieille compagnie qui, paraît-il, fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie, à peine et fins loin des soucis. Et j'ai dansé toute la nuit avec mon chin-toc ébloui. Et chez Charlie il faisait jour et chaud. Des jouets des Ibelles sur son vieux piano. J'ai conduit le chinois dans ma chambre. Il a mis le rat à la porte. Il a remonté la pendule. Il a rempli le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants pour le bercer comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos. Alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé. Un sale couteau rouge de vérité. Un sale couteau rouge sans spécialité.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée, pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie, pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.
It's never what you want to hear. It's funny how much words can hurt you, even after all these years. I want to make an observation about how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, what are they designing you? It's so, so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I could make you see how it's all your own creation that's bringing you this misery. How they're hurting you, more than they're designing you. It's so, so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. The words you hear in your head will never say, will never say. The heart you break, you mistake. For me instead, for me instead. How they're hurting you, what are they designing you? It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. Never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. They're hurting you. More than they're designing you. It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation.
C'est rue de la Crique que j'ai fait mes classes. War dans un star tenu par Chloé. C'est à Tampico qu'au fond d'une impasse j'ai trouvé un sens à ma destinée. On dit que l'argent c'est bien inodore. Le pétrole est là pour vous démentir. Car à Tampico quand ça s'évapore, le passé revient qui vous fait vomir. Oui, j'ai laissé là mes joues innocentes. Oui, à Tampico, je me suis défleurie. Je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à des tas de profits. Les combinaisons ne sont pas toujours bonnes. Comme une vraie souris, j'ai fait des dollars. Dans ce sale pays où l'air empoisonne, la marijuana vous fout le cafard. On m'encourageait, j'envoyais de drôles. Je vidais mon verre en fermant les yeux. Quand j'avais fait le plein, je voyais le pactole et les connaisseurs trouvaient ça curieux. Une fille de 20 ans, c'est pour la romance, et mes agréments semblaient éternels. Mais par-ci par-là, quelques dissonances en ont mis un coup dans mon arc-en-ciel. C'est là que j'ai laissé derrière les bouteilles le très petit lot de mes petites vertus. Un damné matelot qui n'aimait que l'oseille m'en a tant fait voir que je me reconnais plus. Oui, il m'a fait voir le ciel du Mexique et m'a balancé par un beau printemps. Parmi les cactus dans le décor classique, où le soleil vous tue comme à vous portant. Un coq shanghaïé, un soir de folie, a pris mon avenir de même qu'un cadeau. Il m'a dit, petite, il faut qu'on se marie, tu seras la fleur d'un joli bistrot. De tel boniment démolisse une femme, je me voyais déjà derrière mon comptoir. Les flics de couleur me disaient madame. Bref, je gambergeais du matin au soir. Mon Dieu, ramenez-moi dans ma belle enfance, quartier Saint-François au bassin du roi. Mon Dieu, rendez-moi un peu d'innocence et l'odeur des quais quand il faisait froid. Faites-moi revoir les neiges exquises, la pluie sur Sandvik qui lui sur les toits, la ronde des gosses autour de l'église, mon premier baiser sur les chevaux de bois.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com avec donc Alain Malraux, avec au passage des grelots dans le cercle des Malraux, Guillaume Villemot avec L'homme qui osait ses rêves aux éditions Baker Street. Nous recevrons plus tard donc le dernier des éditions Baker Street, donc Philippe Langémieux pour les derniers jours d'André Malraux. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle d'André Malraux, le visionnaire. C'était quand même un visionnaire, parce qu'au jour d'aujourd'hui encore, on reprend des phrases d'André Malraux et qui sont tout à fait d'époque. Et même, il avait vu certaines choses, notamment sur la Chine, sur les pays, l'islam, il avait déjà vu des choses il y a 60-80 ans.
Oui, alors je vais commencer, puis je laisserai Alain continuer, mais ce qui est certain, c'est qu'il a une préscience, ou en tout cas, il a une connaissance, parce qu'il a, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a cette curiosité de l'autre, il a cette curiosité des cultures, il a cette capacité, surtout, à ne pas juger et à pas ranger les choses comme on le fait aujourd'hui.
C'est vrai.
Moi, je trouve que André Malraux est probablement l'inventeur de Wikipédia, sans le savoir. C'est-à-dire que quand il écrit le musée imaginaire, finalement, ce n'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que chacun y apporte quelque chose. Or, Wikipédia est une construction où chacun va apporter du contenu à la réalisation d'une bio sur quelqu'un, d'une bio sur quelque chose, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est absolument remarquable dans l'approche de Malraux, mais il a aussi, et ça, Philippe le raconte dans son livre, où il est à quelques mois de sa disparition, il vient faire une audition à l'Assemblée nationale à l'invitation de Edgar Faure, qui est à l'époque le président de l'Assemblée nationale. Et il a aussi cette prémonition de ce que vont être les écrans et de l'importance, au-delà de la télévision, mais de tous ces écrans-là. C'est lui qui, quand il est ministre pour la première fois de De Gaulle, va imaginer ce qu'aujourd'hui on appelle des MOOC, c'est-à-dire c'est du matériel pédagogique donné au corps enseignant sous une autre forme. Donc il a cette curiosité, il a cette sensibilité de comprendre les choses. Et en ce qui concerne l'art, moi je pense que le musée du Quai Branly aujourd'hui aurait pu tout à fait s'appeler également le musée André Malraux, dans la mesure où il a cette capacité, il est probablement le premier à avoir ça, c'est cette capacité à reconnaître tous les arts et à reconnaître toutes les cultures. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas cette notion de dire il y a quelque chose qui est supérieur, quelque chose qui est inférieur. Le dernier voyage que fait Malraux, c'est quand il part à Haïti à la rencontre des peintres haïtiens, et honnêtement, à l'époque, un peu pris quand même pour quelqu'un d'un peu bizarre que d'aller s'intéresser à cette peinture-là, mais parce que pour lui, tout art est important. Et ce qu'il va faire en tant que ministre de la Culture du général de Gaulle, c'est véritablement de rendre cette culture fondamentale aux yeux de tout le monde. Le couple Malraux-De Gaulle comprend qu'au travers de la culture, le rayonnement de la France va pouvoir s'imposer dans le monde entier. Lorsqu'il réussit à envoyer, lorsqu'il part plutôt avec la Joconde aux États-Unis, il faut lire le texte qu'il fait au président Kennedy lorsqu'il dévoile la Joconde à la population américaine, qui est à la fois le plus bel hommage qui, à mon sens, ait été rendu au sacrifice des GIs américains, que ce soit de la Seconde Guerre mondiale ou des soldats américains de la Première Guerre mondiale. Et il a, et pour lui, l'utilisation de ses œuvres d'art qui viennent du patrimoine français, même si elles ne sont pas forcément été faites par des artistes français, mais elles font partie en tout cas du patrimoine français, c'est une façon de faire rayonner la France partout dans le monde. Et ça, c'est terriblement important. Et ça, moi, c'est en ce sens-là où je le trouve visionnaire et précurseur, c'est-à-dire que pour lui, la culture est accessible auprès de tout le monde, la culture est absolument indispensable, et il faut, au travers de la culture, donner un accès à tous, parce que si on a une culture en commun, on a des racines en commun, et du coup, on arrive à mieux tenir debout. Voilà pour moi ma vision, ma réponse sur la vision et sur les visions de Malraux. Alain, à toi.
Pardon, vous alliez dire quelque chose, Pierre.
Non. Je suis complètement d'accord à ce que Guillaume Vilmot vient de dire. Et notamment, faut pas oublier, je rajouterai une petite chose, c'est très bien expliqué dans votre livre d'ailleurs, ça n'a pas été simple, parce que Malraux s'est opposé un peu à tout le monde pour faire voyager cette fameuse Joconde. Qui a voyagé en première classe d'ailleurs.
Absolument, ça n'a pas été simple du tout. Ça n'a pas été simple et pourtant il y est arrivé parce qu'il avait cette force de conviction-là, parce qu'il avait cette puissance-là, parce qu'il était particulièrement convaincant et convaincu de ce qu'il voulait faire. C'est ça aussi, encore une fois, l'homme qui osait ses rêves, c'est être convaincu que ce que l'on rêve de réaliser peut devenir une réalité.
Tout à fait.
Et qu'on va le réaliser.
Absolument.
Tout à fait. Alors Alain Malraux, je vous ai un peu coupé la parole, je suis désolé. Vous pouvez désormais vous exprimer.
Je veux bien m'exprimer si j'ai quelque chose à exprimer. Ce que je peux vous dire, et ça me paraît très important de le dire, c'est deux choses. La première, qui s'efface, puisqu'on sait, ça n'est pas de moi que le temps est galantome, c'est qu'André Malraux, de même que le général de Gaulle, André Malraux, aujourd'hui, si vous voulez, il est un monument historique avec des écoles, des lycées, des théâtres, et tout ce que vous voulez, auquel on a attribué son nom. Mais pendant qu'il a été ministre, c'est-à-dire 11 ans, 10 ans des affaires culturelles, il a été honni, combattu nuit et jour en permanence, traîné dans la boue, surtout à gauche. Et ça paraît quelque chose d'un peu irréel aujourd'hui. On ne supportait pas le travail pour le général de Gaulle. Alors, ça entraînerait d'autres questions qui peuvent vous venir à l'esprit, mais je vous laisserai aussi le temps de parler, si vous le souhaitez. Mais enfin, ce voyage de la Joconde était caricaturé de toutes les façons possibles. Et il y avait l'appui personnel total du général de Gaulle qui ne se mêlait pas vraiment de culture, n'y prétendait pas, mais qui l'a soutenu à fond. Et c'est quelque chose qui en même temps répond à la fois à sa soif d'universalisme et aussi à sa manière de réaffirmer le génie français, parce que c'est évidemment la Joconde est due à un titan de la peinture qui était Léonard de Vinci, mais il a quand même choisi la France pour terminer sa vie, et on ne peut pas oublier ça quand on est allé dans le domaine du Clos Lucet chez mon regretté ami Gonzague de Saint-Brie. Je ne sais pas pourquoi je lui rajoute une particule. Léonard en avait une. Mais je peux être très très long dans mes réponses. Il vaut mieux me couper.
Non, c'est très intéressant ce que vous dites. Et je suis absolument d'accord sur le Clos Lucet et mon ami, qui était mon ami aussi, Gonzague Saint-Brice.
C'est bien de le nommer, Il avait vraiment beaucoup d'admiration pour Malraux. Et il a fait quelque chose de très très bien avec La Forêt des Libres, qui lui survit d'ailleurs. Au passage, je voudrais dire une chose peut-être hors de propos, mais que s'il avait mis sa ceinture de sécurité, il serait encore parmi nous. Donc, je suggère à tous les gens qui montent à côté de l'automobiliste de la mettre. Si la ceinture de sécurité avait existé, Gauthier et Vincent Malraux, avec qui j'ai été élevé, nous étions comme trois frères, puisque nous étions sous le même toit de l'hôtel particulier de Boulogne. Eh bien, s'ils avaient eu une ceinture de sécurité, peut-être seraient-ils avec nous. Voilà.
C'est vrai ce que vous dites. C'est une aparté très intéressante et judicieuse, je trouve. Donc, nous allons continuer donc avec André Malraux. Alors, moi, il y a une chose que j'ai trouvée, j'ai pas trop compris. Dans votre livre, Alain, il n'y a pas il y a des petites photos, mais surtout d'écrits. Alors que dans celui de Guillaume Villemot, il y a beaucoup de photos. C'était un choix personnel ou éditorial?
Attendez, auquel des deux posez-vous cette question? À moi?
Aux deux, parce qu'il y en a un où il y a beaucoup de photos. C'est celui de Guillaume. Et le vôtre, à part quelques écrits,
c'est un parti pris. Et il y a une photo de couverture avec le couple Kennedy et le couple que formaient André Malraux et ma mère. Et derrière, le futur président successeur après l'assassinat du président Kennedy, jour pour jour, il y a eu 60 ans, le 22 novembre, c'est un parti pris de reprendre des dessins qui, ça se dit mieux en anglais, doodles, des petits dessins qui sont humoristiques, sans prétention artistique, mais légendés d'une manière extraordinairement spirituelle par André Malraux. Il les appelait des diables et il écrivait le mot diable avec un Y, parce qu'il avait lu quelque part dans l'œuvre titanesque de Balzac, que lui-même, Balzac, avait lu ce mot écrit avec un Y et qu'il y gagnait en diablerie. Alors, ce recueil de portraits de coups de crayon, André Malraux, qui n'étaient pas des portraits, mais qui étaient très inspirés, ma mère l'a fait paraître en plusieurs éditions, et notamment grâce à la jeune épouse de Paul Gers, qui, comme Paul Gers n'est plus, Marie-Joseph Gers, aux éditions du Chêne. Et je pense que cet ouvrage n'est pas, épuisé. Et nous avons eu envie, notre éditrice et moi, de leur redonner un peu de service, si vous voulez, d'actualité. Et par exemple, Renard foudroyé, eh bien, c'est une caricature formidablement réussie par André Malraux. Mais ce n'est pas tout à fait une caricature, c'est mieux que ça.
Tout à fait. Alors,
Désolé, je vous interromps deux secondes, il faut que j'aille faire prendre mon appel et je reviens, je vous laisse avec Alain juste et je reviens dans deux minutes.
D'accord.
Alors, nous voilà seul à seul. Si je dis,
Alain, moi, j'aimerais... mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire justement sur les portraits, ces portraits de Malraux et des gens de son cercle?
Je vous réponds d'abord à côté, mais à la marge tout de suite. J'ai quand même écrit beaucoup sur André Malraux, entre
tout à fait, oui, ça,
c'est Les Marronniers de Boulogne, qui est ressorti chez mon ami Christian Bartilla, disparu aujourd'hui, mais les éditions Bartilla continuent à publier Les Marronniers de Boulogne, qui en leur temps m'avait valu le prix Saint-Simon, prix du témoignage. C'est pas géant, mais je veux dire, ça avait quand même compté pour moi beaucoup. Et puis, dans cette, biographie qui n'en est pas une, libre parcours biographique, comme je le disais tout à l'heure, L'homme des ruptures, alors là, j'ai vraiment écrit sa vie à ma façon, c'est-à-dire comme un biographe professionnel, comme la couture Olivier Todd, mais comme un témoin absolument mêlé à la vie. Quand vous vivez de 20 à 24 ans avec André Malraux, matin, midi et soir, avant des petites vacances, et naturellement, il vous en reste, non pas son génie, mais énormément de moments. Et je pourrais en parler 10 heures de suite, voyez-vous.
Ah, je m'en doute, mais vous, quelle est l'image que vous gardez d'André Malraux aujourd'hui?
Écoutez, quelqu'un qui m'a, en dehors de la musique, parce que la musique classique, hein, je le souligne une dernière fois, ça c'est vraiment ma mère. Je ne suis pas un professionnel du piano, mais j'ai toujours le piano qu'elle m'a offert, qui est un Bechstein droit, un très bon piano pour les musiciens de chambre, et je fais toujours du piano, j'ai mal son de main. En dehors de la musique, tout le reste et, du type qui vous parle a été façonné par André Malraux. Les lectures, la découverte des musées, des œuvres d'art, et puis j'étais marqué par son universalisme, vous voyez.
Oui.
Il était très heureux de m'envoyer en Amérique quand j'avais 21 ans. Et moi aussi, j'en étais très heureux. J'y étais allé grâce à lui une fois en 63, mais je n'étais pas mêlé aux officiels pour le voyage de la Joconde. Simplement, je l'ai fait coïncider. Je me suis épris, comme des millions de gens, de la ville de New York où j'ai failli m'installer pour toujours. Bref, je ne l'ai pas fait. Je voudrais vous dire que c'était quelqu'un qui n'avait aucune paresse. Quand je partais pour l'école avec mes frères, il était déjà à ce qu'il appelait l'établi, c'est-à-dire son bureau, pour travailler, pour écrire. C'était la période des essais sur l'art. Quand j'ai eu 14 ans, sa vie a complètement changé, puisqu'il est devenu ministre de De Gaulle, dans un climat de presque guerre civile, dans l'année qu'on craignait que les parachutistes du 13 mai ne débarquent et impose une loi de prétorien. Mais ce que je vous dis, qui paraît vraiment délirant, étant donné tout ce qui s'est passé, et étant donné quand même que la Ve République existe réellement depuis 1959, et qu'aucun de ceux qui en ont exercé la présidence n'a songé à remanier cette constitution que tous critiquaient.
Oui, tout à fait. Sauf si des petits ajouts, mais... La cinquième, les fondements sont toujours là.
Mon Dieu, le climat tellement polémique, tellement violent, qui était, comment dirais-je, contemporain tout à fait, de la fin de la guerre d'Algérie, quelque chose que vous auriez du mal, vous êtes sûrement beaucoup plus jeune que moi, que vous auriez du mal à vous imaginer parce que ça ne vous paraîtrait pas vrai. Mais à l'époque, François Giroud en était a changé les initiales de ses chemises de nuit, qu'elle rebrandait avec des initiales qui n'étaient pas les siennes, au cas où on viendrait à l'arrêter, parce qu'elle croyait vraiment que ça allait se passer comme ça. D'accord. Elle était considérée comme un fasciste ou un dictateur fascisant par des millions de gens.
Tout à fait, je comprends tout à fait. Sinon...
Pour vous couper une seconde, il y a toujours eu des lettres d'insultes extrêmement fréquentes au courrier d'André Malraux, toujours.
Ah oui.
Pas toujours.
Ah oui, alors que c'est pourtant il mettait en avant toutes les cultures d'où qu'elles viennent, c'est ça qui est malheureusement triste. Il mettait en valeur alors qu'on le menaçait.
Et aussi il y a le génie de la division.
Oui, tout à fait.
Qui prospère absolument partout. Vous voyez les aberrations de la culture woke, de l'écriture inclusive. Malraux disait, et ça, je ne suis pas sûr qu'il l'ait écrit, et c'est formidable, entre des millions d'autres choses, il disait, chaque époque invente sa niaiserie. Et il en voyait beaucoup autour de lui.
Vous m'étonnez. Sinon, quand on parle d'André Malraux, et il a quand même laissé des grandes phrases, des phrases qui sont au jour d'aujourd'hui reprises dans les médias. On parlait de visionnaire tout à l'heure, et c'est vrai que y a des phrases, notamment sur les religions, quand il parlait du 21e siècle, c'est vraiment tout ce qu'il a dit, était vrai, alors qu'il a dit ça il y a plus de 60 ans, c'est quand même dingue. Vous êtes fier de ces visions qu'a eu votre père adoptif et votre mentor aussi?
Oui, et je veux dire aussi le fils aîné de mon grand-père, puisque quand même, à l'autre, le fils aîné de mon grand-père et de sa première femme. Roland, mon père, et Claude, mon jeune oncle, mon autre oncle, notamment en déportation pour faire résistance, étant les fils du second mariage de mon grand-père. Mais pendant que j'y pense, je veux vous dire, vous me demandez si je suis fier de tout ça, je n'en suis ni fier ni honteux. C'est comme quand on me demande qu'est-ce que ça vous fait de vous appeler Malraux, parce que c'est un nom qui se remarque par son orthographe. Vous voyez, des noms tout aussi prestigieux, sinon plus, comme Rousseau ou même Camus, sont des noms courants. Quand dit Malraux se remarque, c'est pas pour mon importance à moi, qui est tellement microscopique. Mais si, pour répondre à cette question qui m'a été posée si souvent, qu'est-ce que ça vous fait de vous appeler Malraux ? Je vais vous dire que si je le savais, je le dirais. Mais je ne me suis jamais appelé autrement. Et Malraux lui-même a dit, à propos de l'Arc-Mer, il y a très très longtemps, nous ne pouvons sentir que par comparaison. Mais c'est tout à fait vrai. Si j'avais pris un pseudonyme, peut-être j'aurais une expérience enrichie, différente.
Tout à fait. Je comprends tout à fait ce que vous dites. À votre avis, André Malraux, il serait à notre époque, il vivrait à notre époque. Qu'est-ce qu'il penserait ? Qu'est-ce qu'il pourrait dire ?
Écoutez, franchement, je me sens incapable de répondre à cette question. Ce n'est pas que je ne veuille pas et que je ne saurais pas répondre à cette question. Je voudrais vous dire quelque chose qui m'importe. On dit qu'il a dit, et personne ne retrouve cette place nulle part, mais il a dit énormément de choses, mais par millions toute sa vie, et dans la conversation, parfois les mots dépassaient sa pensée, ce qui arrive à beaucoup de gens, mais pas au même débit, et pas avec le même brio, pas avec les mêmes fulgurances. La fameuse phrase qu'on lui attribue, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas,
oui.
Il a lui-même répondu. Je n'ai jamais dit cette phrase de cette façon-là et dans un contexte que personne n'a retenu, pour la bonne raison que personne n'en sait rien. Ça, c'est dit par André Malraux. Ce que moi, j'ajoute, pour que ce soit beaucoup plus clair, et pour moi, c'est aveuglant de clarté, c'est que ce qu'André Malraux a voulu dire dans le feu de la conversation, c'est que le 21e siècle serait religieux ou lié à un phénomène d'ordre spirituel, métaphysique important, ou qu'il se serait désintégré avant, vous voyez ? Et malheureusement, nous sommes déjà en 2023, on ne peut pas dire que la paix, le bonheur et l'insouciance règnent sur cette terre.
Tout à fait. Malraux, on va être très clair, c'était quand même quelqu'un qui avait des idées qui étaient un petit peu au-dessus des clivages politiques, on va dire. C'était quand même quelqu'un qui était universel au niveau politique.
Mais c'est bien ce qu'on lui reprochait.
Parce ouais,
à l'époque, je dirais, les attaques fusaient de toutes parts. Ils attriolaient, écrivaient dans les lettres françaises, l'hebdomadaire culturel communiste, au temps où Malraux n'avait pas encore trahi la condition humaine, par exemple, mais des insultes, des phrases injurieuses comme ça, il y en avait mais à la douzaine, partout.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Nous sommes au pays des tiroirs, vous savez.
Pardon ?
Nous sommes au pays des tiroirs.
C'est vrai, et Guillaume Villemot l'a très bien dit tout à l'heure, on met toujours des gens, c'est très, très français ça, de mettre les gens dans des tiroirs, dans des cases.
Vous savez qu'il y a eu un horrible dessin de Plantu, vous êtes sans doute trop jeune pour l'avoir lu, mais le lendemain de sa mort, première page du Monde, Plantu avait fait un dessin avec deux tombes, tout à fait identiques, jumelles. Sur la première, il y avait André Malraux 1901-1945, et sur la seconde, André Malraux 1946-1976. Parce que le premier avait eu le bon goût de mourir, et le second de se survivre, si vous voulez, en se reniant. Parce que c'est ça que voulait dire ce dessin. Et je dois dire que malgré un certain talent qu'il a définitivement bousillé en caricaturant, mais de façon vraiment immonde, Sarkozy, je vais dire qu'il a fini par gâcher son talent.
Oui, c'est vrai. Je compense tout, Lydia. Tout à fait. Est-ce que Guillaume Villemot, pour le mot de la fin de notre entretien, serait à côté de vous?
Et pour le moment, il est sorti, mais il est sorti, il reviendra d'une minute à l'autre. Le temps qu'il revienne, parce qu'il sait bien qu'il va revenir, qu'il doit revenir. Mais parlons-nous de ce que vous voulez.
Alors, pour vous, quelle a été la plus grande rencontre de Malraux dans les portraits que vous faites dans ce livre?
C'est une rencontre très importante. C'était dans la première édition, celle qui ne comptait pas encore 24, mais 20 portraits. L'une de ces rencontres, c'est Manès Ferber, dont l'autre meilleur ami était Arthur Koestler, des amis de jeunesse, à ceci près que, avant la guerre, quand ils étaient tous les trois avec ferveur et passion engagés dans la lutte contre Hitler, donc nécessairement du côté communiste ou communisant, Manès Ferber a trouvé en André Malraux son meilleur ami français, l'autre étant Arthur Koestler, le zéro et l'infini. Mmh. Manès Ferber était un homme qui a eu un vrai succès tardif et une très grande carrière dans le lectorat allemand, de langue allemande, parce qu'il est venu pour fuir les persécutions antisémites et, à Paris. Et là, il s'est passé cette chose, c'est que Clara Malraux était absolument biculturelle, qui est française née à Paris, mais elle parlait l'allemand comme le français. Et alors, à l'époque, Manès lisait très bien le français, mais elle ne le comprenait pas encore, et Malraux n'était pas toujours facile à suivre. Il disait toujours, même s'il avait cessé de voir Clara, tellement elle était dressée contre André Malraux, Manès Ferber disait toujours que c'était une amitié qui était née grâce à la traduction simultanée de Clara Malraux, qui ne faisait jamais une faute de grammaire ni une faute de prononciation, et ce n'était pas toujours du français facile, d'autant plus que c'était du direct. Et ça coulait de source, si vous voulez, grâce à elle. Alors voilà que Guillaume est revenu, vous allez pouvoir lui parler, surtout le faire parler.
Voilà. Pour clôturer notre entretien, excusez-moi, je voulais vous poser à tous les deux une question. En dehors, on va peut-être mettre peut-être un peu de côté la condition humaine. Pour vous, quel est le livre de Malraux qui vous a le plus touché?
Alors, je ne vais pas vous en donner deux. Je ne vais pas vous en donner un, je vais vous en donner trois. Pour moi, il y a l'espoir. Parce que sur ce roman sur la guerre d'Espagne est absolument bouleversant. Et il y a beaucoup de choses de Malraux à l'intérieur. Ensuite, Les chaînes qu'on abat, parce que j'adore ce texte pseudo-imaginaire de ce dernier dialogue entre le général de Gaulle et Malraux. Et on a toute la puissance de ce qu'a représenté, entre guillemets, ce couple pendant de nombreuses années, à la fois à la tête de la France et à la tête de la culture française. Et puis, Les Oraisons, les textes des Oraisons funèbres de Malraux, qui sont d'une grande culture, d'une grande finesse et d'une grande sensibilité. Et je trouve que ce sont trois livres qui montrent, pour moi en tout cas, quelles sont les différentes facettes du personnage d'André Malraux et qui, on le voit, est un personnage véritablement multiple, mais terriblement passionnant et, en tout cas, de mon point de vue, terriblement attachant.
Et vous, Alain?
Eh bien, moi, je ne fais pas tout à fait le même choix, mais c'est tout à fait le même auteur. Et en plus, c'est très bien, nous ne sommes pas concertés. Je vous dirais que le premier roman d'André Malraux, c'est Les Conquérants, et que c'est fabuleux. Un jour, invité sur le plateau d'Apostrophe, François Mitterrand, qui n'était pas encore chef de l'État, indique pour lui c'était surtout du remplissage, et il y avait Patrick Modiano sur le plateau qui a bredouillé littéralement, mais je ne comprends pas, mais je ne suis pas mauvais imitateur, mais j'imite très mal Patrick en voulant le bredouiller comme lui. Et il a dit, mais je ne comprends pas, les conquérants, c'était les graphiques, contredisant d'une manière magistrale et en trois mots ce que lui disait le futur président. Alors ça, c'est assez drôle, mais dans Les Conquérants, il y a un texte capital, qui était d'abord un appel aux intellectuels en 1948, quand il avait vraiment rompu avec les communistes et soutenait à fond de Gaulle. qui s'appelle « Dont il a fait la postface des conquérants ». C'est un texte majeur, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui reprochent son évolution à André Malraux, sa rupture avec la gauche, son engagement total sous De Gaulle. Vous n'avez qu'à lire Aurélia Simone de Beauvoir, vous verrez à quel point elle est animée d'une hargne, d'une animosité extraordinaire contre lui. C'est que ce qu'il lui reproche, ceux-là encore très 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 nombreux, c'est d'être parti de leur parti en claquant la porte sans rien expliquer. Mais c'est que simplement, ils n'ont pas lu la postface des conquérants, c'était un texte majeur que je vous enjoins de lire. Un autre texte peu connu et fabuleux de lui, c'est Esquisse d'une psychologie du cinéma. C'est malheureusement accessible maintenant uniquement dans la Pléiade. Mais c'est quand même très important qu'en quelques pages, enfin c'est pas quand même deux pages, c'est une véritable, ça s'appelle esquisse, mais une esquisse extrêmement nourrie, étant donné que nous sommes dans le siècle qui suit le siècle du cinéma et le pratique, pas toujours pour le meilleur, malgré le fait que lui a signé, a fait, disait-il, André Malraux, le film « Sierra de Teruel, Espoir », il disait, entre guillemets, je le cite, « avec des bouts de ficelle », il a quand même eu le prix Louis de Luc en 1945, puisque sous Pétain, il avait été interdit. Et d'autre part, vous me demandez trois textes. Par exemple, son essai sur Saturne, c'est absolument extraordinaire. Il s'appelle Saturne, l'essai magistral, on trouve dans le même format que la collection qu'il avait créée en 59, qui était l'univers des formes. Ça n'appartient pas à cette collection, mais c'est un livre que très peu de gens connaissent, et c'est tellement dommage, parce que là on voit à quel point il a éclairé, il a magnifié, il a rendu à la lumière, et il nous a donné des instruments de vision sur Goya comme personne.
D'accord. Mais écoutez, on va devoir se quitter, mais avec votre programmation musicale, bien entendu, à tous les deux. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de particulier à nos auditeurs, hein?
Écoutez, alors, tu veux commencer?
Toi.
Allez, j'y vais. Je pense que il faut oser redécouvrir Malraux. Et il faut oser penser que Malraux n'est pas uniquement un personnage historique, figé, enterré au Panthéon, mais bien un personnage d'une grande modernité, terriblement vivant, et dont les mots, les propos et les écrits sont d'une grande actualité encore aujourd'hui, et particulièrement peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il avait un succès, il se reconnaîtrait dans un certain nombre de gens pour lui succéder aujourd'hui, mais quand vous regardez ce que fait quelqu'un comme Patrice Franceschi, qui a publié entre autres « Mourir pour Kobané », qui est allé combattre aux côtés des Kurdes, des Bakeux, je trouve que c'est… Voilà, André aujourd'hui il serait probablement en train de se mêler d'un certain nombre de choses et il le ferait avec brio et il le ferait avec efficacité. Donc il faut garder en mémoire ce qu'il a fait parce que c'est très moderne. Alain.
Oui, moi je dirais deux choses assez brièvement. La première, la plus importante de toutes, et je dis ça comme un vœu pieux sans grande illusion, qui est de point lisez, vous qui écoutez cette émission, vous et vos proches, vos relations, lisez André Malraux, parce qu'on ne le lit pas assez. Et l'aspect visionnaire dont parle Guillaume, à si juste titre, c'est quelque chose qui devrait aider, si vous voulez, favoriser cet accès à la lecture de Malraux, donner à des lecteurs potentiels l'envie d'y aller, vous voyez.
D'accord. Eh bien, on va malheureusement devoir se quitter, puis après, on retrouvera à la suite de l'émission donc Philippe Langémieux, lui, pour le dernier jour d'André Malraux. On va se quitter avec votre programmation musicale, messieurs. Donc, il y aura Yves Montand, Les Feuilles Mortes, Aimer Vigny avec Celle que tu crois, et aussi Charles Trenet avec Douce France. Donc, pourquoi ces choix, messieurs ?
Pourquoi ces choix? Je pourrais vous répondre que l'amour n'a jamais de raison d'être, mais c'est parce qu'il y a une nostalgie, une poésie dans les feuilles mortes qui est extraordinaire. Et puis dans Douce France, tout est inspiré d'une façon merveilleuse. Quant à celui du milieu, ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas, c'est parce que je ne la connais pas.
Non, c'est Guillaume Villemot qui a choisi.
Non, mais alors en l'occurrence, c'est un choix d'un de mes enfants à qui j'ai posé la question quand j'ai reçu votre message. Non, moi je trouve que c'est. André Malraux est quelqu'un de très éclectique et donc j'aime aussi cet éclectisme au travers des choix musicaux. Moi, je suis bien incapable de vous dire ce que j'aime comme musique. Je sais que j'aime des musiques, ou un titre que j'aime des cultures, et que je ne considère pas qu'il y a des musiques ou des chanteurs majeurs ou autres. Et donc, j'aime aussi cette logique, je l'ai mis aussi un titre corse, ces différents choix de musique, ces différents éclectismes musicaux, parce que ça participe d'une seule et même chose, c'est finalement se faire plaisir en entendant ces morceaux-là.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup tous les deux. Et longue vie à vos deux livres qui sont passionnants.
Merci à vous.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire. Efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Au soleil d'un mystère, je déroule mes voiles et je brave les temps. Je suis ce décor et je suis ce repère que caressent les vents. J'écoute les dires et j'adresse un sourire à ces mots que j'entends. À celui qui m'achète, à celui qui me vend. Pour le chant de ma langue et le nom de mes arbres et l'amour de mes gens, ceux qui m'ont ensemé, se graver dans le marbre, qui ont donné leur sang. tous ceux qui m'ont offert de l'amour et ses frères qui m'étaient étrangers. Ceux que j'ai reconnus dès qu'ils sont arrivés. Pour dissiper les doutes, s'il y avait un ciel, s'il y avait un chant, une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant, qui dirait sur les toits, dans les rues, sur les routes, le visage du bonheur que j'écris au printemps. Pour dissiper les doutes, s'il y avait un frère, s'il y avait un chant, une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant, qui dirait sur les toits combien je ne suis pas celle qui te convient et celle que tu crois. J'ai changé de couronne, j'ai changé de drapeau dans ma vie tant de fois. En ont-ils une terre, des amours, des enfants, ceux qui parlent de moi? Savent-ils d'où je viens, savent-ils où je vais, et qu'auraient-ils donc fait? Qui je fus, qui je suis, mon ami, le sais-tu? Mais ce qui ne tue pas rend plus fort et hardi, la douleur m'a appris. C'est cadeau que je porte, une étoile, une peine, un silence, un défi. Mais au seuil de ma porte, moi j'en fais une aubaine, moi j'en fais un cadeau. Que l'amour nous emporte toujours plus haut. Pour dissiper les doutes, s'il y avait un ciel, s'il y avait un chant, une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant, qui dirait sur les toits, dans les rues, sur les routes, le visage du bonheur que j'ai pris au printemps. Pour dissiper les doutes, s'il y avait un frère, s'il y avait un chant, une oreille qui écoute le secret d'une voix, les mots d'un enfant, qui dirait sur les toits combien je ne suis pas celle qui te convient et celle que tu crois. Si tu veux mon portrait, c'est souvent vu du ciel que tu vas me croiser. Au parfum d'immortel, en format d'aquarelle et sur papier glacé. Si tu veux me trouver, c'est dans les faits divers que mon nom est cité. C'est ainsi qu'à la une, dignement je me tais. Si tu cherches mon âme, c'est l'Afrique et l'Orient qui est tissé mon pays. Et je porte la flamme, nos racines en marchant, tous ceux qui nous relient. À ceux qui sont partis, que je n'ai convaincu, que je veux retrouver, que je n'ai convaincu, que je veux retrouver. Pour dissiper les doutes, s'il y avait un frère, s'il y avait un chant, une oreille qui écoute le secret d'une voix et les mots d'un enfant, qui dirait sur les toits combien je ne suis pas celle qui te convient et celle que tu crois. Celle qui te convient et celle que tu crois. Quella che ti conviene, quella che tu credi. Ma qual è chissà.
À ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Maintenant, je reçois donc Philippe Langeyeux pour les derniers jours d'André Malraux après ses deux complices, Alain Malraux et donc Guillaume Villemot. C'est toujours aux éditions Baker Street et cette fois-ci ce sont les derniers jours d'André Malraux comme je viens de le citer. Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre, vous allez bien?
Et vous-même? Donc vous avez écrit sur la trilogie parue chez Baker Street les derniers jours d'André Malraux qui relate la dernière année, donc 1975-1976, d'André Malraux.
Oui, c'est ça.
Donc moi ce que j'aimerais c'est que déjà vous vous présentiez et qu'on parle de votre livre qui est passionnant et qui fourmille d'anecdotes.
Ah, vous êtes gentil. Écoutez, non, ben moi je suis un ancien député. J'ai été maire de mon petit village pendant une trentaine d'années. Et en fait, j'ai toujours été passionné par André Malraux depuis l'âge de 20 ans. J'étais à 21 ans à la cour carrée du Louvre au moment où un hommage national lui a été rendu en novembre 1976. Et voilà, j'avais besoin en fait de rencontrer Malraux et notamment d'essayer de comprendre comment finalement à la fin de sa vie, c'est intéressant à la fin d'une vie parce que voyez-vous, Voltaire avait dit au moment où il sentait qu'il allait mourir, j'approche enfin de ce moment où les sots et les philosophes rencontrent le même destin. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était de comprendre comment Malraux, qui se savait malade, avait abordé la dernière partie de sa vie, sans savoir bien sûr quand elle s'achèverait, et s'il avait tout abandonné, ou si au contraire, il avait essayé, entre guillemets, de fermer le magasin, c'est-à-dire de boucler un peu ses valises. Et en fait, j'ai découvert que à la fois il était effectivement ermite, c'est-à-dire éloigné de la vie politique et de la vie culturelle quotidienne, mais qu'en revanche il était d'abord toujours très très consulté par tout le monde sur ce qu'il pensait de la liberté, de l'élection de tel ou tel académicien, de la mort de telle ou telle personnalité, Mao ou d'autres, et en même temps, il a terminé dans l'année 1975-76 des œuvres qu'il voulait terminer, c'est-à-dire L'homme précaire et la littérature, le dernier volume de La métamorphose des dieux. Il a fermé le magasin. Et je trouve ça intéressant parce que si on compare la manière dont Malraux a organisé sa fin de vie et par exemple Sartre, qui lui, à la fois, bon, parce qu'il était très diminué, mais en même temps parce qu'il avait peut-être une autre approche de son art, a un peu tout laissé en vrac, Je trouve intéressant de montrer qu'il y a des talents qui, jusqu'au dernier moment, essayent d'être en rigueur par rapport à leur œuvre.
Et cohérent dans le cas de Malraux.
Ah bah complètement, bien sûr.
Voilà, c'est vrai que Sartre, ça partait un petit peu dans tous les...
Dans tous les sens, ouais, dans tous les... Non. Alors, c'est pas un livre anti-Sartre, hein, c'est pas le sujet.
Ah, complètement pas.
Mais c'est effectivement un livre pro-Malraux parce que je trouve qu'il a une agilité, une capacité de se remettre en cause. Par exemple, vous vous rendez compte qu'en décembre 75, il va visiter Haïti, il est complètement époustouflé par le talent des peintres haïtiens, et il a le culot de supprimer dans La Métamorphose des dieux tout le passage qui concerne Goya pour y mettre à la place les peintres haïtiens. C'est-à-dire que pour lui, c'est une révolution. Alors, ce choix-là, il le fait pour deux raisons. La première, c'est que Gallimard lui dit « Ah non, vous pouvez pas rajouter des pages à La Métamorphose des dieux en plus de ce que vous avez déjà écrit, donc il faut choisir ». Et puis la deuxième raison, c'est qu'il avait déjà écrit sur Goya et qu'il s'est donc dit « Je peux supprimer Goya parce que j'ai déjà réglé son compte, en quelque sorte ». Voilà, mais c'est intéressant parce que jusqu'au bout, il est en agilité absolue sur tout ce qui passe, sur tout ce qu'il a à faire.
Tout à fait. Votre livre est un beau bilan de Malraux, de sa vie d'aventurier, sa vie de politicien. C'est un homme à mille vies, Malraux, pour vous ?
C'est-à-dire qu'il a tellement de facettes qu'on peut toujours lui trouver des failles. Mais le personnage est absolument hallucinant parce qu'il arrive dans une même phrase à vous parler du Christ et de Bouddha, qu'il fait le tour de l'univers en quelques lignes. Enfin, c'est impressionnant, une culture folle. Je raconte quelques dîners qu'il a organisés ou qu'on a organisés pour lui, puisque les Villemorin l'aidaient évidemment, et puis l'hébergeaient, mais des dîners qu'il y a eu à Verrières-le-Buisson quelques semaines avant sa mort, où les hôtes qui étaient autour de la table étaient absolument stupéfaits par son agilité intellectuelle. Donc c'est un personnage absolument exceptionnel, bien sûr. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Donc vous l'avez rencontré ?
Alors jamais. Jamais. Et je suis très jaloux de ceux qui ont eu le culot de le faire, comme les frères Saint-Chéron, par exemple, qui, à l'âge de 20 ans, ont frappé à la porte et, à force d'obstination, ont eu la chance de le rencontrer. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais en même temps, il m'a toujours accompagné. Toujours.
Il vous a fasciné, on peut le dire ?
Oui. Je crois que, j'ai manqué de courage parce que j'aurais dû faire comme eux. J'aurais dû tenter ma chance. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais je crois que, vous voyez, toutes les questions sur être agnostique ou ne pas l'être, être agnostique ou être croyant, être sa manière d'aborder le gaullisme par le haut. Sur un tas de sujets, je me suis senti effectivement très proche, très accompagné en fait par sa pensée tout au long de ma vie, c'est vrai. Oui. Et j'aimerais bien que les gens, mon espoir, c'est que ce petit livre, qui veut, il y a eu assez peu de livres qui racontent la dernière vie de personnalité. Il y a eu un très bon livre de Bernard-Henri Lévy qui s'appelle Les derniers jours de Charles Baudelaire, qui est une absolue merveille. Il y a eu un très bon livre aussi de Laurent Sexic sur les derniers jours de Stefan Zweig. Je n'ai peut-être pas leur talent, mais j'ai voulu vraiment camper le personnage dans cette année 75-76, raconter aussi ce qui se passe à ce moment-là, les émissions d'apostrophe, les débats à l'Assemblée nationale, le démarrage de la campagne de Chirac pour la mairie de Paris. Montrer que Malraux est un peu partout dans tout ça malgré tout.
Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup les anecdotes, dont l'anecdote avec Chirac d'ailleurs. On va être très clair, Chirac en campagne est quand même très racoleur. On va peut-être pas raconter l'anecdote qui est bien relatée dans votre livre, mais c'est très racoleur, quoi. Maintenant, on pourrait appeler ça, c'est quand même dégueulasse, quoi. être franc.
Oui, mais je suis assez d'accord. C'est l'époque et puis c'est la manière d'être. Et c'est vrai que les hommes politiques politique. Voilà, ils ont leurs préoccupations et quand on les gêne avec un sujet qui sur lequel ils sont pas prêts à apporter des réponses, ils sont un peu cabotins. Oui. Mais voilà, c'est
tout bon, à c'est fait. Alors, avant de faire une petite page musicale, mais on y reviendra après, d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est les anecdotes, et c'est tenu comme un journal. Comme un journal. Mais ça a dû vous demander beaucoup de travail pour relater aussi précisément, que ce soit les anecdotes, comme la vie de Malraux pendant cette dernière année.
Ben Pierre, en fait, j'ai eu une chance folle, c'est que la communauté des gens qui aiment Malraux, les Malraussiens, comme on dit, est extrêmement ouverte. Donc, ils sont toujours prêts à vous donner un coup de main. Et j'ai eu un jour un coup de téléphone de François de Saint-Chéron, qui est vraiment un très grand spécialiste de Malraux, et qui m'a dit, bah, tiens, si vous voulez, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai l'agenda de la dernière année de la vie de Malraux à la maison, écrit par lui. Alors vous imaginez bien que j'ai cavalé à la Sorbonne où il donnait ses cours pour aller voir cet agenda, ce qui m'a permis effectivement d'être très précis sur les dates et sur ce qui s'est passé. Par exemple, j'ai découvert dans cet agenda qu'il avait des rendez-vous tous les 15 jours avec un dentiste. Bon, ça n'a pas grand intérêt, mais j'ai vu la vie personnel. J'ai vu des moments où il abandonnait, il annulait des dîners parce qu'il était fatigué. Enfin bref, j'ai pu rentrer dans la vie d'André Malraux à cette époque. Et donc, j'ai essayé, effectivement, à travers une cinquantaine de tableaux, de la raconter sans être non plus ni dans l'impudeur. J'ai essayé de garder une distance. J'ai pas voulu rentrer dans des détails qui étaient du voyeurisme, qui n'avaient pas de sens.
Et entre nous, c'est ce que je loue dans votre livre.
C'est gentil.
Parce que c'est très très bien, il se lit très bien. Et comme les deux livres de vos confrères, hein, Alain Malraux et Guillaume Villemot, mais ils sont très complémentaires d'ailleurs, les trois livres. Et ce qui est intéressant dans le vôtre, c'est cette précision que vous venez de dire grâce à l'agenda, quoi. Grâce à l'agenda auquel vous avez rajouté des anecdotes, et je trouve qu'il se lit vraiment comme un roman. Et déjà Malraux est un roman à lui-même. D'ailleurs, si on reprend les premières parties de l'émission avec Guillaume Villemot et Alain Malraux, où on parlait plus de l'aventurier. De l'aventurier, ouais. et de l'homme, de l'homme politique, on va dire. C'est plus le Malraux intime sans l'être réellement, parce que vous n'êtes pas rentré dans la très très profonde intimité, ce qui d'ailleurs n'aurait pas eu lieu d'être. Vous parliez du dentiste, je pense que ça aurait intéressé personne, quoi.
on est d'accord. Non, mais c'est quand même un personnage, vous voyez, quand François Giroud vient le voir, ou quand il écoute à la télévision les informations sur la mort du petit Bertrand, Philippe Bertrand. Voilà, j'ai essayé de reprendre l'actualité, de faire vivre cette année 75 qui est intéressante, 75-76, sa relation qui est quand même qui est assez mauvaise avec Viscard, qui d'ailleurs, vous l'avez vu, à la cour carrée du Louvre, ne prend pas la parole. C'est barre qu'il fait. Sa relation avec François Giroud, qui est intéressante aussi, parce que elle est très ambiguë, compte tenu du positionnement politique qu'avait eu François Giroud avant d'être ministre. Bref, j'ai essayé de raconter un peu toutes ces imbrications, toutes ces difficultés, c'est le sel de la vie, en fait.
Tout à fait. Mais on va faire une page musicale. Vous avez choisi Jacques Brel avec Les Vieux.
Bah oui.
Edith Piaf avec Non, je ne regrette rien.
Bah oui.
Et Maxime Le Forestier avec Mon frère. Pourquoi ces choix ?
D'abord parce que franchement, les titres parlent de l'époque. Enfin, ce sont à la fois des titres de l'époque ou autour de l'époque. Mmh. Et en même temps, ce sont... Les Vieux, enfin d'abord c'est des chansons extraordinaires, ces trois chansons sont merveilleuses. Et puis ensuite, elles me semblent bien collées avec tristesse, les vieux, c'est la tristesse de la fin de vie. Je ne regrette rien parce que je pense, en effet, que Malraux, au fond, n'a rien regretté. Il a réussi à épuiser à peu près toutes ses forces et toute son imagination dans son travail. Et donc voilà, ça me paraissait logique de l'associer à ces chansons-là. Je ne sais pas si ça aurait été son choix. Hein. Ah. Il aurait peut-être préféré la Calas, mais ce n'était pas un très grand musicologue. Hein, contrairement à Alain Malraux, son neveu, qui lui est un grand spécialiste de la musique, André Malraux n'était pas un grand. Il a fait beaucoup pour la musique, mais il n'était pas un grand musicologue.
Non, mais on peut pas être bon partout non plus. Hein.
Non.
On ne peut pas être bon partout. Moi, je sais que votre livre m'a beaucoup touché parce qu'on voit à André Malraux autrement que dans des livres plus universitaires. Et je trouve que la trilogie là, parue chez Baker Street et sont vraiment des livres humains où l'humain Malraux est vraiment très bien écrit, très bien relaté. C'est vraiment chapeau à tous les trois d'ailleurs. Hein. Je l'ai dit à vos camarades tout à l'heure. Donc bien, on fait une page musicale et on se retrouve après pour la fin de l'émission. Merci.
Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps, est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
temps partagé, les mots d'amour et les pavés, les filles et les coups de matraque. Mais tu n'es pas là. À mon père, pas à ma mère, tu aurais pu chanter cela, toi, le frère que je n'aurais jamais, je suis moins seul de t'avoir fait. Abandonne, on se fabrique une famille.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Aujourd'hui, donc, journée spéciale André Malraux. Avec, on a eu dans la première partie de l'émission Alain Malraux et Guillaume Villemot pour respectivement au passage des grelots dans le cercle des Malraux d'Alain Malraux et l'homme qui osait ses rêves de Guillaume Villemot. Et là, je reçois dans cette dernière partie Philippe Langénieux avec les derniers jours d'André Malraux. Et le tout est aux éditions Baker Street. Alors, est-ce que vous êtes concerté avec votre éditrice de façon à ce que les trois livres paraissent en même temps et offrent une possibilité même d'étude sur André Malraux, André Malraux autrement, on pourrait l'appeler même.
Alors oui, dans la mesure où nous voulions célébrer ensemble l'anniversaire du prix Goncourt qui a été remis à André Malraux en 1933, c'est-à-dire les 90 ans, et c'était donc au mois de décembre, c'était d'ailleurs au mois de décembre il y a 90 ans et 7 jours. Voilà, et donc on a voulu sortir ces ouvrages à ce moment-là parce que on voulait commémorer ce moment important de la littérature française.
Tout à fait, aussi c'est les 90 ans aussi à quelques un ou deux mois près je crois du pillage qu'il a fait vers Saïgon.
Oui, alors c'est un débat parce que moi je ne porte pas un jugement aussi radical sur cette
aventure. Tout à fait, mais je mettais entre guillemets parce que Guillaume Villemot nous l'a bien expliqué tout à l'heure, et même Alain Malraux, il y a eu beaucoup d'incompréhension dans ce chapardage, on va dire.
Voilà, mais enfin bon, à une époque où le musée Guimel lui demandait de faire des choses. À une époque où c'était la France coloniale, c'était quand même très très différent, et le comportement qu'il a eu n'était pas un comportement unique, et même si bien sûr c'est pas le fait le plus intéressant de sa et le plus valorisant de sa vie au service de l'art, ça c'est certain.
Donc votre livre vous a pris beaucoup de temps à écrire, bon l'agenda vous l'aviez, mais par contre pour avoir plus d'anecdotes, plus de précisions, comment vous avez procédé pour écrire ce livre?
Un livre c'est une année et demie de travail à peu près. Voilà, donc c'est un travail quotidien, tranquille, on recherche les archives, on relie énormément d'ouvrages de et sur la personnalité dont on veut raconter la vie. Et puis une mémoire, étant un peu habité par le personnage, j'avais pas mal de petites lignes qui me permettaient de progresser. Mais vous voyez, par exemple, il y a un, un élément qui me paraît... La relation avec Gallimard. Gallimard, c'est son deuxième éditeur. Au départ, il a été d'abord édité par Grasset, puis finalement, Gallimard l'a récupéré. Les trois premiers romans qu'il sort, il les sort chez Grasset, puis ensuite, il est chez Gallimard. Et il est l'auteur le plus important de la maison, ou l'un des plus importants. Bon. Eh bien, j'ai voulu raconter l'anecdote du prix Goncourt de l'année 1976, où Patrick Grainville, qui avait été un auteur Gallimard et qui avait été expulsé de chez Gallimard, gagne le prix Goncourt. Et donc, évidemment, Claude Gallimard est fou furieux qu'un auteur qui était le sien soit parti ailleurs et ait eu le Goncourt. Et j'ai trouvé intéressant de raconter quand même, au fond, la relation assez étrange que Gallimard a avec ses auteurs, c'est-à-dire à la fois très proche, puisque c'est par exemple lui qui suggère à André Malraux d'écrire L'homme précaire et les littératures, mais en même temps assez lointain, puisque à la fois il lui interdit la possibilité de rajouter des pages dans Métamorphose des dieux, et puis là on est à quelques jours de la mort de Malraux, un des membres du comité de lecture évoque la personnalité de Malraux, et à ce moment-là Claude Gallimard dit « Ah ben en fait il faut que je l'appelle ». Bon, voilà, j'aimais bien... montrer que bon que Malraux était à la fois au cœur des préoccupations de tout le monde, puis qu'en même temps on l'oubliait un peu déjà.
Tout à fait. Vous parliez de la partie Goya qui a été donc éliminée. Cette partie Goya, il l'a gardée, vous l'avez lue?
Oui, elle existe. Oui, on la retrouve dans la Pléiade.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, dans la Pléiade, qui est quand même très complète. C'est l'un des auteurs, d'ailleurs, qui a le plus de volumes à la Pléiade. Il y a 8 volumes de Malraux à la Pléiade. À part Balzac, qui en a une quinzaine, je crois qu'il n'y a pas d'auteur qui a plus de volumes de la Pléiade que Malraux. Même Céline ou Dumas, tout ça, n'ont pas autant de volumes. Donc il y a tout, il y a le musée imaginaire, il y a évidemment tous les romans, il y a tous les discours, c'est énorme. Et donc il y a notamment effectivement en annexe, en appendice, le passage de Goya qui n'a pas été imprimé dans La Métamorphose des dieux, dernier volume.
D'accord. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette dernière année de vie de Malraux après vos recherches, à avoir écrit le livre?
L'homme intact, c'est-à-dire au fond, à part la maladie qui vraiment le fatigue énormément, une agilité intellectuelle qui n'a pas changé, une fidélité au général de Gaulle et à ses engagements jusqu'au dernier moment, y compris, vous voyez, la proximité avec les artistes. Giglioli, le sculpteur du plateau des Glières, vient le voir, il écrit à Chagall, il y a une relation... Il n'arrête pas. Il veut vraiment rester jusqu'au bout. Il veut tout tenir. Et ça, pour moi, c'est merveilleux, quoi. Il a, je dirais que jusqu'à la 3 ou 4 jours avant sa mort, André Malraux a travaillé. Et d'ailleurs, sur son bureau, lorsqu'il est mort, sur son bureau, il y avait une pochette sur laquelle il était marqué. Il pensait rentrer le 24 novembre. Il avait marqué à faire le 24 novembre.
D'accord.
Donc voilà, il n'a pas arrêté. C'est bien.
Est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura un musée André Malraux?
J'y travaille avec Alain Malraux et nous essayons de convaincre les élus et de la région Île-de-France et notamment de Boulogne d'ouvrir une villa Malraux, parce que c'est l'endroit où Boulogne-Billancourt est l'endroit où Malraux a vécu le plus longtemps dans sa vie, et donc et nous avons un accueil extrêmement chaleureux de la part du maire de Boulogne et de son équipe pour tenter de mettre en place ce projet-là. Mais évidemment c'est compliqué, il faut avoir des accords de la région Île-de-France, du département des Hauts-de-Seine.
Lieu, ça serait dans la résidence qu'il habitait,
non,
ou pas?
Non. Non. Non, non, ce serait une villa ailleurs, avec notamment la possibilité pour tous ceux qui ont des objets, des écrits, et enfin bref, rassembler l'ensemble de ce qui existe et en faire un musée extrêmement vivant. C'est Malraux, on peut en parler tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a la guerre en Ukraine, on peut parler de Malraux. Ce qui se passe en Israël, on peut parler de Malraux. On peut parler de Malraux sans arrêt. L'actualité nous ramène à Malraux assez facilement. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait un musée qui permette, avec des expositions temporaires, de replacer Malraux dans l'actualité. Et de donner un peu de contenu, un peu de force, un peu de profondeur aux réflexions de nos concitoyens, y contribuer.
On peut dire que Malraux, comme Dumas à un autre niveau, c'est la France universelle.
C'est probablement oui. Alors il avait une admiration très grande pour Paul Valéry, qui a été vraiment un énorme écrivain. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme-là n'a pas passé le bac. C'est-à-dire, ce qui est formidable chez Malraux, c'est de voir à quel point la culture. Il pouvait vous raconter quasiment toutes les une à une les cathédrales de Chartres, et en même temps, cet homme n'avait pas passé son bac. Donc, un autodidacte qui, comme beaucoup d'autodidactes d'ailleurs, impressionne par sa culture. Culture volontaire et acharnée.
Je suis bien d'accord avec vous, il est assez impressionnant, et notamment vous parliez de la condition humaine.
Le prix Goncourt, absolument. Et il avait une relation très étroite avec Camus, vous parlez de Nobel. C'est intéressant parce que finalement, quand on réfléchit bien, vous voyez, il y avait Voltaire et Rousseau, il y avait probablement au XXe siècle, c'était probablement Camus et Malraux, et les grands penseurs. Il y a eu Corneille et Racine, il y a eu Voltaire et Rousseau, il y a eu Victor Hugo, et Chateaubriand, et puis il y a eu. Les cinq derniers siècles, on trouve à chaque fois une figure très importante dans la littérature, et je pense que Malraux fait partie des tout du XXe siècle.
Et on va voir avec la programmation musicale.
C'est une ère de repos, un asile près du flux, ralentir une halle
la Villa Malraux,
sur une heure près du flot. C'est en marge du convoi, sur le bord de la route. L'autoroute prenne des routes, et nous sommes au bord de la voie.
Oui, merci. C'est déjà vous écrit, et j'entends bien continuer. Évidemment, je me préoccupe beaucoup de la suite, c'est-à-dire de revenir au moment de 2026 pour Malraux, pour en faire des choses intéressantes, le 50e anniversaire de sa mort. Et puis par ailleurs, moi je voulais
mécanique bien huilée, machinerie qui ronronne, sensation débridée, quand j'atteins enfin la zone, la tournée des grands ducs, signalée de panneaux, on s'y range, on s'y colle pour un test d'hilo. Qu'attends-tu pour fuir au loin, loin des sentiers, au-delà des routes, retrouver l'île qui nous coûte. S'il te revient en chemin, qui ne connaît pas la nuit, on s'y pose, on y dort, au tumulte infini. C'est le fluide incessant de ces feux qui vacillent. On est bien sur notre heure, engourdi à l'abri. Qu'attends-tu pour fuir au loin, loin des sentiers, au-delà des routes?